On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours avec Jean-Bernard Hébé, Paul Vermus, Philippe Vandel, Philippe Gueluc.
Bonjour.
Jean-Luc Lemoine. Tous, il faut bien le dire, sous le charme de Marlène. Est-ce que maintenant il faut toujours dire votre nom, Marlène Moureau, ou est-ce qu'on doit dire Marlène tout court?
Bah c'est comme vous voulez, en fait c'est vrai que j'étais connue en France avec Marlène, mais en Espagne tout le monde m'appelle Marlène Moureau, et c'est resté Marlène Moureau en Espagne, c'est comme vous voulez.
Marlène Moureau.
Mais c'est vrai que le problème de Marlène Moureau, c'est qu'ils croient que j'ai voulu copier Marilyn Monroe parce que ça ressemble, mais en fait c'est mon vrai nom.
Ah oui?
C'est pas mon nom d'artiste, je suis née avec Moureau et Marlène parce que mon père était le chauffeur de Marlène Dietrich en 69 quand je suis née. Et donc finalement.
C'est un signe prédestiné.
Voilà, ouais.
Il était chauffeur de Marlène Dietrich, votre père.
Quand elle habitait avenue Montaigne, et ce qui fait qu'à cette époque-là, quand je suis née, il a décidé de m'appeler Marlène à cause de ça.
Ah, c'est une belle histoire.
Mon père était le chauffeur de Philippe Pétain. C'est pour ça qu'on m'a appelé Philippe.
Jean-Luc, vous vouliez dire à Marlène
Rien.
Oui, non.
C'est drôle le comportement des gens jeunes face à des femmes belles.
C'est-à-dire
bah, il n'est plus le même.
Regardez, c'est plus le même, lui qui d'habitude pétille. Aujourd'hui, on dirait de l'Évian, il est tout plat.
Ah, tout plat. Ou de la Contrex. Oui. Je vous dis ça parce que...
L'enchaînement.
Attention. Ça, je suis surpris, j'ai lu...
Pourquoi vous avez maigri?
Non, la Contrex va sortir aussi en bulle. C'est-à-dire que pour l'instant, on connaissait uniquement l'autre Contrex en eau plate. Maintenant, elle existe
tout full,
pétillante.
Mais la Contrex, c'est pas avec des bulles? C'est pas celle qui a un goût salé, un peu de vomi?
Ah, pas du tout.
C'est la Vichy Célestin.
La Contrex, elle est plate, elle a un goût spécial. C'est celle qu'on boit quand on a envie de s'aider à maigrir, on va dire.
Ah non, celle qui fait le plus maigrir, c'est l'épargne.
L'eau qui fait le plus maigrir, c'est l'eau du Nil. Vous en buvez un grand verre chaque jour et vous attrapez la dysenterie et ça vous fait maigrir.
Ah, ça c'est sûr.
Contrex plein gaz, le litre d'eau gazeuse, il faut le savoir, est quand même vendu deux fois plus cher que l'eau plate. Les bulles, ça coûte cher. Et c'est donc une nouveauté chez Contrex.
Parce qu'elles sont mises à la main dans les bouteilles, avec une pompe à vélo.
C'est à Paris, hein, chez Contrex, parce qu'ils ont vraiment l'image de l'eau plate.
Mais il faut quand même rappeler à tout le monde que l'eau du robinet, en France, est tout à fait buvable. Que la flotte en bouteille, ça coûte 100 fois plus cher que l'eau du robinet. Et qu'on peut très bien boire l'eau du robinet.
Mais c'est pas le même goût quand même. Je trouve que ça a le goût de tuyauterie, moi.
Bah, parce que vous faites changer vos tuyaux. Faites changer vos tuyaux.
Mais comment connaissez-vous le goût d'un tuyau d'abord?
Faut y aller quand même. Hein. Ah bah tiens, voilà une aventure que je lis dans Le Parisien qui vous aurait terrifié, chère Marlène,
ah bon,
pour avoir suivi un peu, comme tout le monde, première compagnie.
Vous dites ça comme si c'était honteux, tu sais.
Oui.
Un petit peu genre, c'est pas moi qui ai acheté le Playboy là.
Ben oui, c'est un peu vrai. Je regardais comme ça pour me tenir au courant, mais sans plus. Mais quand même, la première émission, quand vous êtes apparu, quand votre nom a été dévoilé comme faisant partie des recrues de cette émission de télé-réalité, on a su très vite que vous détestiez les araignées.
Ah oui, je suis arachnophobe.
Et là, je lis dans Le Parisien ce matin que deux mygales seraient en liberté en plein centre-ville d'Étampes, dans l'Essonne. D'après les pompiers intervenus sur les lieux, le froid où les chats auraient eu raison de ces deux araignées. En attendant, elles ont provoqué des sueurs froides dans tout un immeuble de la rue de la Queue du Renard.
La Queue du Renard.
Ça existe. Ouais. Où est-ce que tu habites? T'habites la Queue du Renard, oui, c'est ça, oui. Et samedi soir, vers 19h30, un individu s'est querellé avec sa concubine et sous le coup de la colère, il a jeté à travers la fenêtre trois vivariums. Ce qu'on fait régulièrement quand on... Voilà, il est en colère avec sa nana, hop, il jette les trois vivariums qui contenaient cinq mygales qui s'écrasent dans la cour intérieure de l'immeuble.
Oh.
Trois d'entre elles sont mortes au sol, mais d'autres demeurent introuvables, donc on ne sait pas
mais
où elles courent.
Elles sont vénéneuses, les mygales. Hein.
Ah, c'est vrai.
Les grosses mygales sont vénéneuses. Les matoutous, non, puisque c'est, c'est comme des petits animaux domestiques en Guyane, mais alors les vraies mygales qui sont plus grandes que votre main, c'est les plus dangereuses.
Moi, je croyais que quand on était tout petit, on vous opérait des amygales.
Jean-Bernard, qui fait partie de l'amygale des anciens combattants, le sait.
Non mais il est con ce mec de balancer son vivarium par la fenêtre. Il aurait mieux fait de balancer sa gonzesse dans le vivarium.
Mais moi je balance pas les vivariums. Moi quand je me dispute, je lui balance les valises sur le paillasson ou par les fenêtres. C'est plus ça.
Ah,
c'est
bah, pas appelez-nous, vrai. Hein, prenez nos portables. Dès que vous balancez le mec
C'est vrai, vous
tu avez balances les valises.
Des disputes violentes à l'espagnol alors.
Ah oui, à l'espagnol. Fuera de mi casa, la hostia hijo puta.
Mais, ah, j'ai compris, Poutin. Ouais. Et ça, c'est vous qui parlez.
Quand je m'énerve, oui.
Il y a un couple qui se déchire en ce moment, c'est François qui nous l'apprend. C'est Charles Jude, vous savez certainement, mon cher Paul Vermus, qui est Charles Jude.
Bah, je vous laisserai répondre à cette question indiscrète.
Quel malhonnête, celui-là.
Je ne peux pas y répondre en public.
Vous ne savez pas qui
non,
est Charles Jude.
Non, je ne sais pas.
Oh, là, là, là. Quelle honte.
Moi,
alors,
je ne sais pas.
Vandel.
C'est le frère de Jude Law.
Non, Jean-Bernard.
C'est le vrai nom de Charles d'Angleterre.
Non plus.
Il s'appelle Charles Jude.
Ah, je vois la culture qui règne autour
attends,
de cette salle.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est
avec
que
qui s'engueule Charles Jude.
Il y a une pleine page. Donc, c'est quelqu'un de connu.
Eh oui.
Bah, alors, aidez-nous déjà un petit peu. Ah,
célèbre chorégraphe, danseur étoile.
Le nom, c'est comment?
Charles Jude.
C'est le. Ah, le danseur étoile. Mais vous aviez le mal prononcé son nom.
Non.
C'est le vrai nom de Kamel Wally.
Charles.
Il a été nommé danseur étoile. Étoile en...
À Béziers.
À Béziers.
Je peux vous dire, il a été nommé étoile en juillet 1977. 9 ans seulement après avoir pris son premier cours de danse. Et depuis, il dirige les ballets de l'Opéra de Bordeaux.
L'Opéra de Bordeaux, c'est ça.
Oh, ça va. Depuis 1996, c'était un disciple de Rodolphe Nureyev. Et alors, quand il est arrivé à Bordeaux, il s'est... comment on dit,
il s'est mis à boire.
Non.
Le vin du chat.
Le vin du chat.
Le vin du chat. Et il a pas eu
les 5 bouteilles.
Et alors, de l'entrechat.
De l'entrechat.
Et il s'est mis, non, il s'est emmouraché d'une danseuse étoile qui s'appelle Hélène Ballon, ce qui tombe bien.
Oh là là. À Bordeaux. Pour les verts.
Pour Bordeaux.
Et pour une danseuse.
Et alors, le chorégraphe Charles Jude, il était très amoureux d'elle, sauf qu'elle, nous raconte la presse ce matin, s'est aperçu qu'il avait d'autres liaisons, il avait réussi à la séduire, mais très très vite ça a mal tourné, ils se sont engueulés, et évidemment, sa carrière à elle, au sein de l'Opéra de Bordeaux.
Elle a été bloquée.
Et oui, a commencé à se bloquer. Là, elle porte plainte. La CGT la défend.
Alors, elle est bien partie.
La CGT danse.
Je vois Bernard Thibault avec les machins.
En tutu, Bernard Thibault en tutu.
La CGT danse, tu les vois, manifester le 1er mai. Avec les drapeaux rouges. Les mecs ont des bras comme ma cuisse.
Arlette Laguier, danseur, danseuse.
Non, Hélène Ballon a mis 4 ans à quitter Charles Jude. Le harcèlement moral a d'abord eu lieu dans la sphère privée avant d'être aussi professionnelle. Voilà,
elle mais il dit... paraît qu'elle a quitté la danse, elle s'est mise au football. Avec Hélène Ballon. Elle joue dans...
Un vrai tyran, dit-elle, au départ. Alors, et en même temps, on peut le comprendre, lui. Quand on ne s'entend plus avec sa femme, est-ce que c'est quand même facile? Ça rappelle les meilleurs sketchs qu'on a pu voir. Parfois, c'est le type qui soulève la danseuse puis qui la balance.
Oui.
C'est vrai que ça paraît...
Ou dans les cirques, le type avec les couteaux qui fait semblant de mal viser.
Ça paraît impossible s'il ne s'entendait plus qu'il continue à danser avec elle en même temps, non?
Bon, ça, jamais...
ça c'est défendable.
Mais ça c'est vrai que dans la danse, si... il faut une certaine fusion quand
ah,
on...
ah.
Bah, je le sais, j'étais mariée avec un danseur, donc
c'est
ouais.
Pas vrai.
Ouais, oui.
Si. Bah, oui. Le papa... Le...
Ça s'est fini avec la valise par la fenêtre.
Voilà, c'est
aujourd'hui,
ça.
Celui-là, il est dans le loft.
Quel danseur c'était qui?
Non, le père de mon fils est chorégraphe et danseur.
Et il s'appelle comment?
Michel Guevara.
Michel Guevara.
Comme le Che Guevara.
Mais alors, vous les prenez...
C'est un Cubain.
Ah oui, ah oui, oui, vous les prenez tous latino, espagnol.
Ah oui, oui, ah oui, c'est bien, ça danse mieux. Ça danse.
Si elle parle la langue.
On n'a aucune chance, nous alors.
Hein, parce que... Pourquoi je peux prendre des cours d'espagnol?
Enfin, bah, oui. J'ai l'impression de prendre des cours
mais
de danse.
Mais vous n'avez pas besoin avec votre belle cravate.
Et ta carte bleue.
Il a la cote, Jean-Bernard. Vraiment, de nous six, c'est ça.
Ah ouais.
Mais je la comprends.
Vraiment, si vous restez, pour dire les choses poliment, un dernier coup à tirer. Ça serait lequel?
Lequel des six?
Ouais.
Ah non, ce serait peut-être vous.
Ah. Ah.
Voilà, pourquoi, sans cravate, sans carte bleue.
Pourquoi alors?
Attention, Marlène, il faut bien vous rendiez compte de quelque chose là. Oh. Philippe est debout.
Marlène. Regardez attentivement sa chevelure. Regardez bien.
Oui.
Regardez.
Alors, pourquoi lui?
Ah oui, bah, oui c'est
pourquoi
vrai.
Lui pourquoi
c'est
lui
pas coiffé ce matin.
C'est pas qu'il s'est
non,
pas coiffé.
Parce qu'en général, je préfère les hommes plus jeunes que moi.
Ah, voilà.
Moi, je suis pas plus jeune.
C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup autour de lui. Ah, c'est con que Stevie soit pas là. Stevie, par exemple, c'est votre genre d'homme?
Je sais pas qui c'est.
Vous en... Tous les gens qui
vous
sont
vous... Je sens que vous allez revenir.
C'est qui?
Non. Mais vous en faites pas, nous non plus, on sait pas qui c'est. Alors,
Je pense que vous auriez intérêt à le choisir parce qu'il va pas vous faire très mal.
Je pense qu'on doit organiser, ça me paraît assez évident,
rencontre au sommet.
Un choc culturel.
Le choc des titans.
Stevie contre Marlène. Stevie est notre petit protégé ici.
Ah bon?
Et il sort de la télé-réalité lui
il
aussi.
Il est le pionnier de la télé-réalité.
Il a fait le premier loft, Stevie, et il fait partie de notre équipe.
Ah bah c'est bien, on va s'entendre parce que je suis la gagnante de celui de l'Espagne.
Voilà, on l'a recueilli au journal SPA.
Très gentil, on l'adore, c'est vrai. Ouais. Alors, vraiment.
En fait, c'était une manière d'approcher Bourriquet, il faut bien l'avouer. Parce que Bourriquet était la peluche qu'il avait emportée dans le loft.
On s'est éloigné de l'opéra de Bordeaux, là, quand même.
Avec Stevie, pas tellement. Hein.
Mais quand même, alors, ce danseur étoile, Charles Jude, comment ça va se terminer? Beau garçon, hein, quand même, ça, il vous plairait. Hein, alors,
jamais de relation dans le travail, c'est ça.
Ah, elle a couché, elle a eu tort.
C'est pour ça que Paul, moi, je préfère vous laisser tout de suite.
Il danse en slip moulant.
Bah, toujours les danseurs. Hein.
En coquille. Hein.
Bah, en général, les danseurs, elles ne sont pas très habillées.
Non, on voit pas toujours leurs jambes. Parfois, ils ont un tutu.
Mais ils ont toujours des collants. Ils ont un collant.
Et bien là, les danseurs n'ont pas de tutu. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, il est musclé.
Non, il est plutôt beau mec.
Ah oui, il a des belles jambes.
Il paraît qu'il. Qu'est-ce qui vous fait rire d'un seul?
Tu vois, tu es d'accord avec moi. C'est pas très grand comme pantalon.
Non.
Vous riez vraiment comme une blonde. Parce qu'elle dit, ah, il a des belles jambes, et elle rit, alors on sait pas pourquoi.
C'est parce qu'elle pensait à autre chose, elle pensait pas aux jambes, voilà pourquoi, c'est ça.
Elle les a comptées, il y en a
qu'il
que deux.
Parce qu'il a les jambes très écartées.
Voilà.
Vous êtes vraiment branché. Non, c'est une légende.
Mais non, mais on voit que ça. Écoutez, moi j'ai jamais vu des spectacles où on danse en petite culotte quand même.
Voilà.
À part le mien.
Quand on a une.
Vous allez faire un spectacle.
Ah non, la petite culotte, j'ai toujours gardée, moi.
C'est vrai.
Sauf chez Coé.
Même quand j'étais danseuse de striptease, quand j'avais 20 ans, j'ai jamais enlevé le bas.
Sauf chez Coé, on raconte. Moi, j'ai pas vu
Alors,
ça.
Alors, chez Coé, je vais quand même vous dire le secret. J'avais quatre strings l'un sur l'autre parce que je savais que j'allais perdre le strip poker. Alors, j'avais prévu de mettre quatre strings les uns sur l'autre et sur mes collants avec d'autres culottes en dessous. Ce qui fait que même s'il avait enlevé, si j'avais perdu au bout de quatre fois, de toute façon, on aurait perdu ma foufoune.
Donc, c'était pas une ficelle, le string, c'était une plotte. Pardon.
Quelle déception.
Mais tout le monde croit encore que j'ai enlevé la culotte, c'est extraordinaire.
Toute la presse en parle. Il y a des gens qui disent non, d'autres qui disent oui.
Vous voyez, ils connaissent pas les trucs.
Il y a 63% de non.
Raffarin a tout de même dit, disons non à ceux qui ont dit non.
Un Renoir vient d'être dérobé, une œuvre de la fin de la vie de Renoir, peinte en 1913.
Je sais où il est. Dans la cuisine de Stevie.
Là, ce Renoir-là est un beau Renoir, hein. Tête de fillette, ça s'appelle. Et cette tête de fillette, un tableau de petite taille, c'est normal, c'est une fillette, était exposé dans une vitrine de la célèbre société de vente aux enchères publiques d'art. Deuxième maison de vente derrière Christie's, l'étude Tajan, rue des Mathurins, vous connaissez.
C'est une très grande étude, oui.
On leur a volé ce Renoir. Le vol a été commis après effraction de la vitrine dans le 8e arrondissement de Paris.
Estimé à combien ce Renoir?
200 000 euros.
Ah, ça va être bien pour la maison de la compagnie d'assurance, ça. Hein.
Oui.
Qui va payer, au fait, vous qui connaissez bien l'art contemporain? Le propriétaire du tableau ou le commissaire priseur? En l'occurrence, puisque c'était dans les locaux du commissaire priseur, c'est l'assurance du commissaire priseur.
Ça va pas être une mince affaire, hein.
Non.
C'est pas art contemporain, Renoir, c'est impressionniste.
Ce qui m'étonne, c'est
Attendez, Jean-Bernard Hébé, je sais pas si vous avez entendu, là, il y a Marlène
qui est pas art contemporain, c'est impressionniste.
Oui, j'avais déjà dit ça.
C'est moi qui ai dit une petite bêtise. Je me suis adressé à notre spécialiste en parlant d'art moderne, vous avez raison.
Vermus, se faire moucher par Marlène.
Non, c'est peut-être pas désagréable. Se faire moucher par Marlène.
Qui la connaît depuis longtemps, eh bien, c'est bien moi.
Je suis
le plus ancien. Et j'ai toujours été très convenable avec
vous.
Toujours élégant,
c'est
pas comme certains.
C'est ce qu'elle te reproche.
Ai-je dit du mal de vous un jour?
Jamais.
Voilà.
Enfin, se faire moucher sur l'impressionnisme, excusez-nous, ça fait quelle impression?
Alors, vous, le faux d'air, je vous taisais. Hein.
Moi, j'aimerais rester. Vous avez vu comme j'élève le niveau culturel de cette émission avec des sujets. Vous avez vu l'opéra de Bordeaux.
C'est bien.
Et là maintenant, je vais vous poser une belle question. Où donc se trouve la Vestale?
La Vestale en Grèce,
à côté des scooters.
La Vestale. Ouais. Il s'agit bien sûr de la célèbre statue en marbre de Jean-Antoine Houdon. qui revient chez nous en France. Elle était aux États-Unis depuis 1901 et ce chef-d'œuvre vient d'être racheté grâce à un mécène, le groupe AXA. Alors, vous la connaissez, la Vestale, la voici.
Ah oui, ah,
d'accord. Elle est jolie, la Vestale.
Elle est un peu trop habillée à mon goût, je trouve.
Ah oui.
Et pourquoi vous mettez tout le monde à poil?
Mais parce que je trouve que les sculptures, c'est toujours mieux les femmes nues qu'habillées. C'est beaucoup
moi
plus
aussi,
joli.
Moi, je trouve même sans sculpture.
Moi, j'adore les sculptures de Rodin et je trouve ça beaucoup plus joli.
Mais Rodin, ils sont habillés. Balzac est habillé, les bourgeois de
Canada. Non, la Danaïde de Rodin est magnifique.
Mais le penseur et le couple du baiser sont nus. Et puis, savez-vous que pour la statue de Balzac, qui est entièrement habillée d'une grande cape. Rodin a fait la statue de Balzac nu. Et il a ensuite posé la cape, il a sculpté la cape pour que la statue soit parfaitement correcte anatomiquement.
Et surtout parce que Balzac en avait marre d'être honoré.
Ah, mais ça...
Oh. En parlant de ça, j'ai vu quelque chose qui va plaire à Marlène un magazine qui s'appelle Palace qu'on donne dans les grands hôtels, dans les grands restaurants.
Vous allez dans les grands hôtels maintenant, c'est ça?
Non, il va dans les grands hôtels depuis que je sors.
Il va juste.
C'est le magazine
qu'on donne dans les, ouais, après, je dans les hôtels et dans les restaurants cost.
Dans le magazine Formule 1 aussi.
Il y a un reportage sur les gens du musée Grévin qui font les statues des gens qui posent au musée Grévin. Est-ce que vous savez qu'ils sont nus sous leurs vêtements? Je veux dire que la statue est faite...
Oui, en général, on est nus sous ses vêtements.
Oui, mais simplement, là, il y a...
On comprend pas ce que vous dites, Vandel.
On voyait Monica Bellucci.
Mais c'est obligé,
on voit Monica
Bellucci pour regarder les proportions
sous ses vêtements. Oui. Elle est absolument sublime. C'est une statue de femme avec des seins, des formes, plein de détails anatomiques absolument incroyables.
À vous dire qu'ils ont vraiment soigné la nudité.
Avec des détails incroyables et magnifiques.
Mais
alors, est-ce que ce sont les vrais détails? Très, très, très érotique.
Mais c'est très bien pour respecter les proportions du corps, c'est obligé.
Parce là, il y a toutes les proportions. Là, je peux dire un gynéco. On trouverait rien à dire.
Et alors, est-ce que c'est les vrais détails de la vraie personne? Parce que les mannequins d'étalage, on les voit nus aussi, mais enfin, c'est
mais non,
sommet.
Parce que c'est qu'ils réutilisent parfois des anciennes statues. C'est pour ça que, par exemple, peut-être que la statue de, je sais pas.
Monica Bellucci avec le corps de cime.
Si vous avez des questions sur le musée Grévin, vous êtes gentil, vous adressez à moi. Oui. Je suis académicien.
Il y a vous, Michel Stouvenot et Pierre Bénichoux.
Voilà, mais je voulais pas en parler, mais enfin, en tous les cas, je suis académicien du musée Grévin. Je veux dire par là que si demain je pouvais vous faire entrer au musée Grévin, je le ferais. J'ai un véritable pouvoir d'influence. Nous sommes
regardez le dragueur!
Il commence à sortir!
Et je trouve que vous avez votre place au musée Grévin.
Merci, oui. Popole, allons, voilà.
Vous m'appelez comme ma grand-mère. Je suis tout chose.
On va emmener Popole aussi, justement.
Ah, Popole!
Quel est celui que vous préférez autour de cette table? C'est toujours Vandel?
Popole, ça va rester, ça va vous rester.
Bon, écoutez, on m'appelait comme ça quand j'étais tout petit.
Popole?
Oui. C'est pas très joli, mais enfin, c'est toujours dans votre bouche, ça va.
Qu'est-ce que vous préférez, Popole ou Pollux?
Bah écoutez, ce que vous voulez. En ce qui vous concerne,
je suis quand même triste parce que j'essaie d'élever le débat en vous proposant des sujets quand même importants comme la Vestale de Houdon et personne n'est capable de me dire autour de cette table si vous êtes heureux de l'avoir revenir en
vachement
France.
Content.
Vachement content.
Oh, alors là, on est
alors qu'elle était quand même là-bas.
Mais on n'y croyait plus en fait.
Oui,
c'est un peu,
on en parlait.
On est un peu muet sous le coup de l'émotion tellement ça nous fait plaisir.
Vous la connaissiez pas, moi je la connaissais.
Moi je la connaissais pas personnellement. Hein.
Je connaissais que le mot. On dit d'une femme que c'est une Vestale.
Moi j'aurais préféré que la Statue de la Liberté elle revienne ici, ça aurait été mieux.
Ah oui, ça c'est sûr.
Vous êtes un petit joueur, Laurent Ruquier.
Non, mais si vous aimez l'art.
Mais si vous voulez voir la Statue de la Liberté de près, je vous emmène à Barentin, près du Carrefour, il y a une réplique, comme ici d'ailleurs près de la maison de la radio, il y a une réplique de la Statue de la Liberté de...
Bartoli.
Bartholdi.
Bravo.
Bartholdi.
Voilà.
En parlant de la Statue de Liberté, le sculpteur Aslan avait pris mon corps pour faire le centième anniversaire de la Statue de la Liberté en 1996 et j'ai remplacé le corps de Brigitte Bardot.
C'est pas vrai.
Et oui.
Parce que c'est elle au départ.
C'est mon premier travail de mannequin de.
Mais elle est si bien que ça, Brigitte Bardot.
Mais non, mais c'est pas.
Elle a posé pour la Statue de la Liberté.
Il voulait un corps qui ressemble à celui de Brigitte Bardot quand elle avait 16 ans. Et quand j'ai fait le modèle de Brigitte Bardot, enfin, quand j'ai fait le corps de la Statue de la Liberté, il fallait un corps qui ressemble à celui de Brigitte Bardot quand elle avait 16 ans. Et j'avais 16 ans à ce moment-là. Je venais de faire Miss France.
Mais vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Buren, pour ses colonnes, a pris Popole, je crois.
Ça suffit, vous. C'est un slogan. Qui a fait la Marianne, d'ailleurs.
C'est Aslan qui a fait la Marianne.
Et puis, je voulais faire dans le culturel. Alors, je peux vous... Un petit conseil culturel. C'est juste à côté de chez moi. Vous n'êtes pas obligé de venir chez moi. Il y a le musée Mayol, qui est le plus beau musée de Paris. sur Mayol.
Quoi, Mayol?
Qu'est-ce qu'elle a, Mayol? Alors, c'est si vous voulez des femmes nues, c'est magnifique. Toutes ces femmes galbées, arrondies. Vous avez les plus belles sculptures. Il y a un concentré de sculptures dans un musée qui fait 500 mètres carrés. Parce que quand vous allez au Louvre, vous avez mal aux pieds. C'est tellement immense. Vous n'en finissez pas. Vous avez les pieds qui gonflent, hein, Marlène?
Mais ça, c'est vrai.
Voilà.
On dirait une pub avec Micheline Dax. Et moi, j'utilise Scholl. C'était le conseil de Popol. C'était Scholl.
Oh, non, ça suffit, vous. Vous êtes encore teint les cheveux, je vois non, ça. Il faut arrêter. Arrêtez, Vandel. Mais si, regardez, Marlène.
Regarde, Popol. Je suis pété de cheveux blancs. J'aimerais revenir à l'actualité. Et là, alors là, je me tourne peut-être justement vers vous, Vermus. Vous êtes du genre à piquer des vêtements dans les magasins. Je vous vois bien chez Renoma ou ailleurs.
Hein. Non, aujourd'hui, c'est la halle aux vêtements. Hein.
Et alors, faut faire attention. Je le dis à tous les voleurs de vêtements parce que ça y est, c'est fini. Certains magasins comme Casino et deux autres enseignes d'hypermarchés qui, pour l'instant, gardent leur nom secret, en ont fini avec les macarons en plastique qui servaient d'antivol. Ils ont maintenant adopté pour les vêtements une marque d'antivol à radiofréquence quasi invisible qui sont insérés dans les étiquettes textiles ou cartonnées des vêtements. Ça veut dire que là, les voleurs, dans les semaines qui
viennent... C'est bien de le dire, comme ça, ils vont couper l'étiquette et vont sortir avec quand même.
Oui, c'est vrai, c'est pas très civique ce que je fais là.
Non, à mon avis, ça doit être dans la doublure, ça doit être caché quelque part.
Non, mais sérieusement, c'est intéressant quand même de savoir ça, parce que...
Moi, je m'en fous, j'ai jamais volé, donc...
Mais de toute façon, dans les magasins Casino, pour l'instant, il n'y a pas trop de danger, ils sont en deuil à cause de ce qui se passe à Monaco.
Oui.
On passe au football, vous voulez bien?
On reste dans le deuil.
On reste dans le deuil, là.
C'est peut-être pas la peine.
Alors là, qu'est-ce qu'ils ont... Bah, franchement, tout le monde en fait un pataquès autour de cette expulsion de Trezeguet. Ils ont été mauvais, point barre. Je veux dire, quand on fait 0-0 à la mi-temps contre Israël, il n'y a pas de quoi la ramener de toute façon, franchement.
Non, c'était pas un grand match, mais c'est vrai que ça n'a pas aidé l'expulsion de Trezeguet.
Et Raymond, ça n'a pas aidé, mais enfin, il a pas à faire une mauvaise tête à un joueur adverse, même si l'autre... c'est l'arbitre qui doit...
Moi, je pars du principe que si tu fous un coup de boule, faut que l'autre ne se relève pas, sinon ça ne sert à rien.
Oui, c'est vrai, en plus, il fait à moitié son coup de boule.
C'est ça, il l'a raté.
Et alors, quant au sélectionneur, Raymond Domenech, mais pardon, pourquoi changer un joueur à 2 minutes de la fin? Il était évident que quand on joue à 10 contre 11, très vite, il faut amener du 109 dans cette équipe parce que les joueurs sont crevés et donc il fallait faire
à 2 minutes de la fin, il a fait rentrer un joueur plutôt Dorasso. Plus défensif.
Enfin, à 2 minutes de la fin, à quoi ça sert?
La preuve que ça a servi, Laurent, c'est qu'il n'y a pas eu de deuxième but israélien.
Bien sûr, il faut éviter le 2-1.
Bien sûr, c'est un signe de renoncement. C'est-à-dire que là, ils n'attaquaient plus, ils disaient on va conserver le match nul.
Les Israéliens étaient sur une bonne séquence et c'est faire perdre une minute pour faire perdre le rythme aux Israéliens. Ils avaient peur du 2-1.
Puis il y a des joueurs, on se demande ce qu'ils font là.
Des bons quand même. Il y a eu une très bonne rentrée de Florent Malouda notamment.
Ouais, mais Victor Dossi est très bien, ça, d'accord. Mais alors, il y en a. Écoutez, c'est pas compliqué, c'est en lisant la composition. Moi, j'ai regardé le match hier soir et en lisant la composition de l'équipe ce matin, je me suis rendu compte qu'il y en a qui étaient sur le terrain. Je savais pas. Enfin, Galas, quasiment, j'ai pas entendu son nom, moi.
William Galas.
JR. Non, rien.
Mais Galas, il était sur le terrain.
Oui, derrière gauche.
Pas vu, celui-là.
Ça vous ennuierait de dresser la parole à Marlène, là, et regarder toutes les.
Diarra, il était sur le terrain, celui-là, Diarra.
Diarra, non, il avait une maladie de.
Diarra, c'était. Le problème, c'est qu'on l'a pas trop reconnu sur le terrain, parce qu'il mesure 1m90 et on pouvait le confondre avec Vieira. Non, mais déjà que Barthez s'est fait un petit peu conspuer, la Marseillaise a été conspuée aussi. C'était chaud pour les Français hier. Au niveau de l'ambiance,
c'était chaud. C'est normal. Les professionnels, ils sont habitués. Enfin, c'était
mais
pas
non, c'est normal.
Chaud. Non, c'est pas normal qu'on siffle un
hymne. Mais c'est pas normal non plus que Barthez dise je vais pas aller en Israël, j'ai la trouille et tout. Qu'est-ce que ça veut dire?
Que tu siffles Barthez, à la limite, je veux bien. Mais que tu siffles l'hymne.
Mais enfin bon, comme Barthez était français et tout, ils sont pas beaucoup.
Vous avez pas parlé de football, ça vous intéresse pas là. Vous faites le malin, vous comprenez rien au football.
Ah non, mais j'y comprends rien. Ça m'intéresse pas.
Moi, j'en parle pas, ça n'intéresse pas.
Non, mais quand Gaulle dit des conneries.
Hercule Poirot sur TMC, incarné par David Suchet, c'était mieux que le ballon rond. Là, vous parlez d'un sujet que vous connaissez pas. Est-ce que moi, je parle de football?
Mais Paul, tu viens de parler d'Hercule Poirot, et on dit que c'est moi qui suis vieux. Il y a Paul qui nous parle d'Hercule Poirot. Tu nous as dit tout à l'heure que tu organisais un débat. Mais là, il est très fort. T'es allé au débat sur le coup d'une heure du match.
C'est à 23h.
Et au lieu de préparer le débat, vous avez inquiété sur ma vie privée, vous.
Mais vous dépassez la morale,
la ligne jaune, vous êtes fou aussi.
Là où tu forces le respect, c'est que d'un seul coup, tu te fous de nous parce qu'on regarde le foot un petit peu beauf. Et pour faire rêver les femmes, moi je regarde Hercule Poirot.
Et qui a gagné?
C'est toujours Hercule Poirot. Oui. Vous devriez le savoir.
C'est vrai.
Hein?
Marlène, est-ce que vous aimez le sumo? Est-ce que le président Chirac vous a déjà emmené à un combat de sumo?
Non.
Vous connaissez le président Chirac?
Oui, quand même.
Vous l'avez rencontré déjà?
Non.
Non, vous aimeriez le rencontrer?
Oui.
Ah bah voilà, ça, je suis sûr qu'il va être sensible à cet appel. Et il vous emmènera à voir un combat de sumotori, un de ces quatre. Sauf que peut-être les sumotori vont changer de vêtements. Ça, là, c'est une révolution dans l'histoire
mais
du sumo.
Ils ont le même truc que Marlène.
Non, ils vont mettre des strings.
C'est toute une polémique actuellement au Japon. Les lutteurs, vêtus pour l'instant d'un seul mawashi, une épaisse ceinture qui sert à la fois à les protéger et à leur permettre d'agripper leur adversaire. Les lutteurs en ont marre, et particulièrement les jeunes qui démarrent, parce que évidemment, ça manque un peu de pudeur. Et pour encourager les jeunes à s'inscrire et à devenir sumotori, on va peut-être leur faire porter un pantalon de sumo plutôt que
ce
et pourquoi pas un kilt.
C'est vrai que cette sorte de couche qu'ils ont, couche culotte, c'est un peu ridicule.
Ah oui, mais c'est ridicule, ça fait 2000 ans que ça existe, on va pas changer les traditions quand même.
Attends, et leurs 3 tonnes, c'est pas ridicule.
Et leurs catogans, mais c'est sublime, et le sumo. Sein.
Ouais, c'est dommage, moi je trouve que c'était bien avec le petit string là.
Le petit mawashi. Ouais. Il est costaud, hein.
Oui, c'est vrai qu'ils sont balèzes, les mecs.
On pourrait te soulever avec ton string, non?
On dirait.
Mais ils ont la fesse molle, vous avez remarqué.
Ouais, mais ils sont tout mous de partout. Oh ben. Hein.
Ah oui?
Ah bon?
Bah, je sais pas, quand ils sautent, quand ils bougent, ça fait boing boing. C'est bizarre comment c'est, hein. Ça, moi j'aimerais pas être
au lit. Elle fait comme ça parce qu'on a l'impression qu'elle joue aussi. Enfin bon.
Elle a des seins plus. Enfin, pardon de dire ça, mais même Elsa Fayer est battue, je dois dire.
Ouais. Oui, c'est pas le même budget.
Alors, vous allez pouvoir faire vos courses au bras d'un mannequin. C'est les Galeries Lafayette qui vous proposent cette nouveauté. Faut qu'on ait essayé. Alors là, on a tout essayé. Faut qu'on envoie quelqu'un.
Un mannequin homme ou un mannequin? Parce que moi, je vais être ridicule.
Un mannequin homme.
Ah bah non.
C'est pour
un mannequin homme pour les ménagères qui ont fait les courses?
Exactement.
Oh, c'est magnifique.
Jusque
ça.
Samedi, à partir de cet après-midi, 16h, 20 top modèles dans ce grand magasin des Galeries Lafayette vont accompagner les ménagères. Il suffit de s'inscrire. Hein. Vous pouvez téléphoner. Il y a un numéro vert. Le 0885 20 45, 0885 20 45, et là vous vous choisissez dans un catalogue des Hidalgo, on peut dire, qui va vous accompagner pendant une heure, va vous accompagner à faire vos courses, à vous conseiller, puisque ce sont des mannequins, ils s'y connaissent en mode, évidemment, ce sont des top modèles.
Ah, on choisit pas son yaourt avec?
Non, mais on choisit évidemment le mec en revanche.
D'accord.
Et alors en plus, il y en a un qui est interrogé, qui dit moi je suis célibataire, je suis prêt à porter les paquets et à donner plus si affinité.
Ah bon,
pas mal. À donner son paquet.
Moi
alors.
Je veux bien qu'il porte mon paquet.
Les Chipendales. Ils ont engagé les Chipendales.
Non, regardez, il y en a un là, il a l'air pas mal le mec en plus.
Ah oui, il est beau celui-là. Hein.
Franchement,
il
là.
Est grand.
Les dames
elle
vont être.
Elle est contente la madame à côté.
Mais en
là.
Même temps, ils sont payés par le magasin, j'imagine. Bien sûr. Ils vont pousser à la consommation. Elles vont se mettre des trucs horribles et ils vont dire ah, ça vous va, c'est formidable.
C'est comme les entraîneuses dans les bars, tu sais, qui te font boire. Là, ça sent le bouchon. Ouais.
Alors moi, je voudrais vous dire que je suis gratuit et tous les samedis matins, je suis au Bon Marché où je fais mes courses. Donc, si quelqu'un veut m'accompagner, il est le bienvenu à partir de 10h.
Sin Semilla, tout le bonheur du monde. C'est une chanson que j'aime bien, qui marche formidablement en ce moment.
On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là. Comme on le fut au premier pas, quel monde on vous laissera. On fait notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que cela suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour vrai, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde.
Signe Sémilia, tout le bonheur du monde. On se retrouve dans un instant après quelques conseils, hein.
Publicité.
Non, consommation. Oh là 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 là. Vermus. Mais
oui, dès que je peux me faire remarquer, je le fais.
On va pas vous
en... Mais à coup de pas.
À tout de suite.